Chapitre 3. Depuis le verset 18 du chapitre 2, nous avons vu ce qui concerne la conduite des domestiques chrétiens. Dans les versets 1 à 6 du chapitre 3, nous avons maintenant ce qui concerne la conduite des femmes chrétiennes. Versets 1 à 6. Citation de l'Écriture. Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, de laquelle vous êtes devenus les enfants, en faisant le bien et en ne craignant aucune frayeur. Fin de citation. L'apôtre exhorte maintenant les croyants quant aux relations dans le mariage. Le caractère prédominant de la femme chrétienne devrait être la soumission à son mari. La mise en pratique de cette exhortation nous apprend l'immense influence qu'une vie chrétienne conséquente peut avoir sur un inconverti. Le mari incrédule qui refuse d'écouter la parole de Dieu peut être gagné en observant la vie de sa femme, vécue en toute pureté et dans la crainte de Dieu. Toutefois, si la femme doit se conduire justement envers son mari, elle est appelée à vivre en esprit devant Dieu. Sa parure ne doit pas être adaptée aux modes changeantes de ce monde, dont le seul but est de la rendre extérieurement attrayante, sans aucune influence sur le caractère moral, qui seul est d'un grand prix devant Dieu. L'épouse chrétienne doit plutôt penser à ce que Dieu voit, l'être intérieur, et se parer de l'ornement d'un esprit doux et paisible. C'est le contraire de la vanité et de la présomption de la chair qui cherche toujours à se mettre en avant. En outre, cet esprit doux et paisible doit être nourri dans le cœur, devant Dieu. S'il est entretenu, là, il ne manquera pas de former un caractère doux et paisible devant Dieu et les hommes. On peut parfois affecter un air doux et paisible, mais cela n'a guère de valeur si ce n'est pas la manifestation d'un esprit doux et paisible. Ce n'est que ce qui vient du cœur qui influencera la vie de façon juste. Les saintes femmes d'autrefois sont citées en exemple aux épouses chrétiennes d'aujourd'hui. Elles espéraient en Dieu, se paraient de douceur et de tranquillité d'esprit, et étaient soumises à leur mari. Sarah prouvait son obéissance et sa soumission à son mari en l'appelant « Seigneur » selon la coutume d'alors. Les épouses qui espèrent en Dieu, obéissent à leur mari et font le bien sans craindre les conséquences, sont, quant à leur caractère, les enfants de Sarah. Verset 7. La conduite des maris chrétiens. Citation de l'Écriture. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Fin de citation. Le mari chrétien doit demeurer avec sa femme étant conscient que leur relation a été instituée par Dieu et non pas simplement selon les pensées et les coutumes humaines. Il doit l'honorer comme étant plus fragile et réclamant, par conséquent, plus de soins et de protection. Indépendamment des différences de constitution, ils sont ensemble héritiers de la grâce de la vie. Le mari doit donc porter tout honneur à sa femme, afin qu'il n'y ait aucun nuage entre eux qui vienne interrompre leur prière. Versets 8 et 9. Sur la conduite dans le cercle chrétien. Citation de l'Écriture. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternel, compatissant, humble, ne rendant pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissant. Parce que vous avez été appelé à ceci, c'est que vous héritiez de la bénédiction. » Fin de citation. Après avoir donné des exhortations spéciales pour les chrétiens dans leurs relations individuelles, l'apôtre termine en plaçant devant nous les qualités qui devraient caractériser le cercle chrétien dont font partie tous les chrétiens. Dans le monde, la discorde règne, mais dans le cercle chrétien, il devrait y avoir unité. Soyez tous d'un même sentiment. D'autres passages nous apprennent que ce même sentiment, dans la compagnie chrétienne, ne peut exister que si chacun individuellement est revêtu de l'esprit d'humilité, de la pensée qui a été dans le Christ Jésus. Philippiens 2, versets 2 à 5. On peut faire remonter presque toutes les dissensions entre croyants à la vanité et la propre suffisance non jugée de la chair, qui cherche toujours à être la première et la plus estimée. Voir Luc 22, verset 24. Si nous n'avons pas la pensée de Christ, ou bien il y aura des conflits, ou bien nous formerons une fausse unité autour de nos propres idées. Ayant une même pensée, et celle-ci étant la pensée du Seigneur, nous serons naturellement conduits à être compatissants. Les compassions du Seigneur ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23. De très petits différends entre frères peuvent venir tarir nos sentiments de bienveillance. Si donc ceux-ci sont appelés à ne pas cesser, il faut qu'ils soient motivés par l'amour. Aussi, l'exhortation suivante est-elle « Soyez fraternels ». Il ne s'agit pas ici d'aimer selon les normes humaines, comme dans les relations naturelles, aussi justes soient-elles à leur place, mais d'aimer comme étant unis ensemble dans les relations divines de la famille de Dieu. L'amour divin conduira le chrétien à être compatissant et humble. L'amour humain comporte souvent un fort élément d'égoïsme. L'amour divin nous amènera à entrer dans les peines des autres tout en nous oubliant nous-mêmes. Comme Christ qui, ne pensant ni à son confort ni à sa sécurité, peut retourner en Judée où les hommes cherchaient à le lapider, pour pleurer avec les deux sœurs éprouvées par le deuil. Jean 11, versets 8 et 35. Si, hélas, on cherche à nous nuire et à nous injurier, ne rendons pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire, bénissons. Notre vie pratique dans le cercle chrétien doit être dirigée par le fait que nous sommes appelés à hériter de la bénédiction. Conscients de la grâce dont nous avons été si richement bénis, nous devrions être prêts à bénir les autres, même s'ils nous ont outragés. Si ces simples injonctions étaient mises en pratique, les vertus de Christ seraient manifestées dans le cercle de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi sont-elles données, sinon pour mettre en évidence les beautés de Christ ? Il a traversé ce monde animé de ce sentiment d'humilité, sa main était toujours prête à secourir, guidée par un cœur rempli d'amour divin. Personne n'a jamais été plus compatissant et plus humble que Christ. Jamais il n'a rendu mal pour mal. Au contraire, il dispensait la bénédiction à ceux dont il a dû dire « Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » Psaume 109, verset 5. Dans les versets 10 à 13, nous avons le gouvernement moral de Dieu. Citation de l'Écriture. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ? Fin de citation. Après avoir placé devant nous les magnifiques traits moraux qui ont caractérisé Christ, et qui devraient être ceux de la compagnie chrétienne, l'apôtre nous encourage à nous engager de cœur dans la vie chrétienne et à refuser le mal, en nous rappelant les principes immuables du gouvernement moral de Dieu. L'essence même du gouvernement, qu'il soit humain ou divin, est de protéger et de bénir ceux qui font le bien et de punir ceux qui font le mal. Trop souvent, le gouvernement humain est entaché par la corruption et la violence, de sorte que le juste a à souffrir et que le méchant échappe. Avec Dieu, tout est parfait. Son gouvernement s'exerce sans exception de personne, rendant à chacun, croyant ou incrédule, selon ses œuvres. La grâce de Dieu ne met pas de côté le gouvernement de Dieu. Nous n'y échappons pas en devenant chrétiens. Nous sommes les objets de la grâce, mais il demeure vrai que nous récoltons ce que nous semons. Nous ne pouvons nous servir du christianisme pour couvrir le mal. Le christianisme nous propose une vie de bénédiction dans la communion avec Dieu. Cette vie a été vécue en perfection par le Seigneur Jésus. Elle est présentée dans le chemin de la vie, tracé dans le psaume 16, une vie qui a sa joie spirituelle profonde, car le Seigneur peut dire d'elle « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables ». Si donc le chrétien veut vivre cette vie, et voir de rejour, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. En le faisant, il découvrira qu'il est béni, conformément au gouvernement de Dieu, tandis que celui qui fait le mal souffrira, car, selon les principes immuables de ce gouvernement, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. En outre, qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ? Même le monde est capable d'apprécier l'homme qui poursuit tranquillement son chemin en faisant le bien. Toutefois, si faire le bien conduit à la prospérité et faire le mal au châtiment, on peut se demander pourquoi, dans ce monde, le juste souffre si souvent, alors que ceux qui font le mal semblent prospérer. Comment se fait-il que, dans l'Épître même qui nous dit que la faveur de Dieu repose sur le juste, les souffrances des enfants de Dieu soient placées devant nous avec plus de détails que dans tout autre passage? Comment se fait-il qu'immédiatement après les versets promettant d'heureux jours à celui qui fait le bien, nous lisions que faire le bien peut entraîner des souffrances? Nous avons la réponse à ces questions. Si nous nous souvenons que, pendant le jour de la grâce, le gouvernement de Dieu est moral et non pas, en général, direct et immédiat. Il est véritablement un gouvernement moral dans le sens que le bien est récompensé par des bénédictions spirituelles plutôt que par la prospérité matérielle, de sorte que, tout en plaçant devant nous la possibilité de souffrir pour la justice, l'apôtre peut néanmoins ajouter « Vous êtes bienheureux ». Aujourd'hui, le gouvernement de Dieu n'est pas nécessairement direct, car les peines et le châtiment qui sont la conséquence du mal ne sont pas toujours immédiats et visibles. Pour voir le résultat final du gouvernement de Dieu, soit dans la bénédiction de ceux qui font le bien, soit dans le châtiment du méchant, il nous faut regarder au-delà du temps présent et attendre le monde à venir. Tandis que le gouvernement de Dieu s'exerce dans toute sa perfection absolue, il est actuellement en grande partie caché, et quelqu'un a dit « Il faut de la foi pour accepter le fait que le gouvernement moral de Dieu prévaut sur toute la confusion. » Puisse le croyant se souvenir que, malgré les apparences contraires, il demeure toujours vrai que faire le bien conduira à la bénédiction et aux souffrances. Aujourd'hui, ces choses peuvent être expérimentées ensemble dans une certaine mesure, mais dans le monde à venir, la bénédiction sera pleinement connue. Du verset 14 du chapitre 3 jusqu'au verset 7 du chapitre 4, l'apôtre traite maintenant des souffrances pour la justice. Le premier chapitre nous a rappelé que le croyant peut souffrir sous la discipline de Dieu pour l'épreuve de sa foi. Le deuxième chapitre nous a appris qu'il pouvait être appelé à souffrir par conscience envers Dieu. Verset 19. La portion de l'épître que nous abordons développe le grand sujet des souffrances pour la justice. Le chrétien est considéré comme suivant les traces de Christ, chapitre 2, verset 21, et de ce fait, il traverse ce monde comme un forain et un étranger. Il s'abstient des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Il se garde de proférer la fraude. Il se détourne du mal et fait le bien. Il recherche la paix. S'il marche ainsi, il jouira, selon le gouvernement de Dieu, de la faveur du Seigneur et évitera dans une large mesure les troubles que les hommes attirent sur eux-mêmes par leur mauvaise conduite. Toutefois, dans un monde méchant, le chrétien peut avoir à souffrir pour la justice. Cela confirme clairement que le gouvernement de Dieu ne sera pas toujours manifesté pleinement avant que la justice règne dans le millénium. Le diable n'est pas encore chassé du monde, et le mal continue à prévaloir, de sorte que, si, d'une part, la poursuite de la justice a toujours la faveur de Dieu, elle peut, d'autre part, susciter l'opposition, dans la mesure où, en faisant le bien, le chrétien nuit aux intérêts des hommes du monde. Versets 14 à 16. Citation de l'Écriture. Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux. Et ne craignez pas leurs craintes, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Fin de citation. Si donc nous sommes appelés à souffrir pour la justice, ne gémissons pas sur notre sort, mais réjouissons-nous plutôt. Imitons Paul et Silas qui, sur le minuit, après avoir été persécutés à Philippe, pouvaient chanter les louanges de Dieu, bien qu'ils aient injustement jetés en prison, pour avoir contrarié les intérêts de quelques personnes mal disposées. Il y a cependant le danger de s'engager dans une voie injuste par crainte des conséquences. Aussi sommes-nous exhortés à ne pas craindre les hommes et à ne pas être troublés en pensant à ce qui pourrait arriver si nous agissons droitement. En sanctifiant le Seigneur dans nos cœurs, nous serons préservés de céder à l'injustice. Si nous donnons au Seigneur la place qui lui appartient dans nos cœurs, nous éprouverons sa présence pour nous soutenir devant les hommes. Ainsi, non seulement nous ne serons pas tentés de céder, pour nous éviter des ennuis, à ce que nous savons être mauvais, mais il nous sera accordé de rendre un témoignage positif à la vérité en donnant la raison de notre espérance avec douceur et crainte. Agissant dans un esprit de douceur, nous n'offenserons personne en cherchant à nous imposer et à faire valoir nos opinions. Agissant dans la crainte devant Dieu, nous aurons la hardiesse pour maintenir la vérité. Tout en n'ayant pas à craindre les craintes des hommes, il convient que nous marchions dans la sainte crainte de Dieu. En outre, pour souffrir pour la justice et témoigner devant les hommes, il faut une bonne conscience devant Dieu et les hommes. Si nous essayons de résister à l'ennemi avec une mauvaise conscience, nous ne faisons que nous exposer à la honte et à la défaite. Avec une bonne conscience, par notre conduite chrétienne conséquente, nous rendrons confus ceux qui nous accusent faussement. Versets 17 à 20. Citation de l'Écriture. Car il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car aussi, Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. Fin de citation. Il est donc clair que les croyants peuvent avoir à souffrir en faisant le bien, mais même alors, souvenons-nous que c'est la volonté de Dieu. La volonté malveillante des hommes peut occasionner la souffrance, mais c'est la volonté de Dieu qui la permet. Nous devrions nous attacher à rechercher la pensée de Dieu dans la souffrance, nous rappelant qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si nous faillissons et faisons le mal, plutôt que celui-ci soit ignoré, il est bien juste que nous en souffrions. Il n'y a cependant aucune excuse pour le chrétien qui fait le mal et doit en souffrir, car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair mais vivifié par l'Esprit. Étant amenés à Dieu, justifiés de tous nos péchés, nous avons le privilège de vivre une vie nouvelle dans l'Esprit et ainsi de faire le bien, même si parfois il peut nous arriver d'avoir à souffrir en faisant le bien. Pour encourager ces croyants juifs dans leurs souffrances particulières, l'apôtre tire un parallèle entre leur époque et les jours qui ont précédé le déluge. Christ n'était alors pas présent personnellement, mais il prêchait par l'Esprit de Dieu aux hommes de ce temps par la bouche de Noé. Genèse 6, verset 3, 2 Pierre 2, verset 5. Aujourd'hui, Christ n'est plus sur la terre, mais le Saint-Esprit est venu, et l'Évangile est annoncé par les serviteurs du Seigneur. Acte 1, verset 8. Dans les jours de Noé, les hommes dans leur ensemble ont été désobéissants, ne recevant pas la prédication, et leurs esprits sont maintenant en prison, attendant le jugement plus grand encore, celui des morts. De même aussi, la nation juive dans son ensemble a entièrement rejeté la prédication de Christ par l'Esprit. Acte 7, versets 51 à 53. Les jours qui ont précédé le déluge étaient le temps de la patience de Dieu, quand, avant que le jugement s'abatte, Dieu attendait pour bénir les hommes. Comme aujourd'hui est le jour de la grâce de Dieu qui précède le jugement à venir. Dans les jours du déluge, un petit nombre de personnes furent sauvées du jugement qui frappa le monde. De même aujourd'hui, un résidu est préservé du jugement gouvernemental qui s'est abattu sur la nation d'Israël et du jugement plus grand encore qui attend les vivants et les morts. Chapitre 4, verset 5. Les quelques-uns qui ont échappé au jugement dans les jours de Noé ont été sauvés à travers l'eau. Le monde entier du temps de Noé a été sous le jugement de la mort par le déluge. Noé et ceux qui étaient avec lui ont échappé au jugement en passant à travers les eaux du jugement. Christ est entré dans la mort et est ressuscité. Et le croyant est quitte du jugement, comme l'ayant traversé dans la personne de son substitut. Noé est entré dans un monde nouveau, exempt de jugement. De même, Christ ressuscité est au-delà du jugement. Et le croyant, dans sa conscience, est délivré de toute crainte du jugement mérité, en voyant que devant Dieu, il est aussi net de tous ses péchés et du jugement qui leur est dû que Christ lui-même. Versets 21 et 22. Citation de l'Écriture. Or, cet antitype vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, ange et autorité et puissance lui étant soumis. Fin de citation. Ce fait d'être séparé d'un monde coupable et d'échapper au jugement en passant à travers les eaux du jugement est clairement présenté en image dans l'histoire du déluge. En outre, l'apôtre nous dit que ces grandes vérités sont également présentées en image dans le baptême. Nous avons donc dans ce passage l'image dans le déluge, l'antitype dans le baptême, et le fait dans la mort et la résurrection de Christ. Dans le baptême, nous passons à travers l'eau, et ainsi, en figure, nous sommes séparés du monde placé sous le jugement pour être introduits dans une sphère nouvelle au-delà du jugement. Faisant allusion au lavage cérémoniel sous la loi, l'apôtre nous prévient que, dans la référence qu'il fait au baptême, il ne se sert pas de celui-ci comme un antitype de la purification cérémonielle extérieure du corps par les lavages lévitiques, mais comme un antitype de la mort de Christ, par laquelle nous obtenons une bonne conscience devant Dieu. Le dernier verset du chapitre nous donne à connaître la plénitude du salut qui est le nôtre par la mort et la résurrection de Christ. Cela nous est présenté en Christ comme homme au ciel, établi dans la place d'autorité suprême, à la droite de Dieu, toutes les autres puissances lui étant soumises. Christ est entré dans la mort et le jugement, et il a remporté une victoire si parfaite qu'aucune puissance dans l'univers ne peut l'empêcher de prendre sa place dans la gloire.